Voilà, donc merci à tous ceux qui sont en train de se préparer pour les prochains messages. On va pouvoir entendre d'autres voix, ça va changer un petit peu aussi. Donc on va reprendre là où on en était. Vous vous souvenez que Absalom, fils de David, avait recueilli sa sœur après le viol fait par Amnon, autre fils de David, et on avait remarqué qu'il n'avait rien dit à son frère et qu'il lui en voulait. Et effectivement, il a fini par le tuer, par traîtrise, alors qu'il l'avait invité avec tous les autres pour la fête de la tombe des moutons. Et il l'a fait assassiner. Évidemment, il était conscient que c'était un peu gros ce qu'il avait fait. Et donc, il a fui chez son grand-père à Geshur, donc c'est au nord, près de la Syrie. Et il va rester là-bas 3 ans. La Bible répète plusieurs fois qu'il avait fui, il était en fuite. Voilà. Bien sûr, on a dit il ne pouvait pas compter sur la clémence de la loi. Et il ne pouvait pas se réfugier dans une ville de refuge. La Bible, la loi avait prévu des cités de refuge, mais pour les crimes non prémédités. Là, c'était un crime qui était prémédité depuis 2 ans. Donc, évidemment, il ne pouvait pas. Donc, il a préféré fuir. La Bible nous montre que David, avec le temps qui passe, est finalement consolé de la mort, au moins partiellement consolé de la mort de son premier fils, Amnon. Et puis sa colère envers Absalom s'est un peu apaisée. Donc on en est là. Et on avait remarqué la dernière fois que David s'était toujours fait remarquer par sa patience et qu'on a tous les défauts de nos qualités. Comme disait le texte qu'on a lu dimanche, à cause du péché qui est là partout, qui nous environne et qui s'accroche à nous. Malheureusement, même nos qualités ont des défauts. C'est dur à croire, mais c'est vrai. Et du coup, cette patience dont il avait fait preuve pendant des années, de souffrance, quand Saül le poursuivait, etc., malheureusement, il l'a gardée intacte et il va l'exercer alors qu'il ne faudrait peut-être plus l'exercer. Ouais, ça, c'est dommage. Il ne dit rien à Amnon. La Bible dit qu'il était très fâché de ce que Amnon avait fait, mais il ne lui dit rien. C'est embêtant. Et voilà, il va exercer la patience, c'est admirable. C'était admirable quand il s'agissait de réconcilier la nation et puis d'attendre l'intervention de Dieu. Mais là, au niveau de sa famille, ça devient de la faiblesse. Et c'est dommage, c'est vraiment triste. Absalom, lui, vous allez voir, va tabler sur les qualités qui manquent à David. Cette décision ferme d'appliquer la loi quand il le faut, eh bien non, il ne le manifeste pas et Absalom va bien compter là-dessus. Il va compter aussi sur les défauts qu'il va mettre en valeur d'ailleurs de son père, les défauts réels ou imaginaires. Et on avait terminé en disant que tout ça, ça n'empêche pas Dieu d'agir. Et ça, c'est très consolant. De savoir que quelles que soient les circonstances et les temps, quelles que soient les erreurs, quelles que soient les promesses de Dieu sont toujours les mêmes. Elles s'accomplissent. Même si nous, on prend des chemins détournés, même si on ne fait pas toujours ce qu'il faut, les promesses de Dieu sont là. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et on avait terminé là-dessus. Voilà. Donc on aborde le chapitre 14, qui n'est pas très drôle non plus ces derniers temps, je ne vous gâte pas au niveau des textes bibliques, mais ils sont là, il faut les travailler aussi. Joab, vous vous rappelez qui est Joab, c'est son neveu, le fils de sa sœur Tseruya. C'est un chef militaire extraordinaire. Dieu l'utilise pour des grandes, grandes victoires militaires. Mais il a un sacré caractère, Joab, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il a quelqu'un qui lui fait de l'ombre, comme Abner, il l'assassine, ce n'est pas compliqué. Il a vraiment un caractère spécial, Joab. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir qu'il est spécial, Joab. Donc c'est son neveu. Joab, fils de Tseruya, donc la sœur de David, sut que le cœur du roi était porté vers Absalom. Après 2 ans. Il envoya chercher à Tekoa, c'est pas très très loin de Jérusalem, une femme sage. Alors, suivant les traductions, on a sage ou habile. En fait, moi je traduirais par une excellente actrice, mais bon. Et il lui dit, mets-toi en deuil, quand je vous disais. Je te prie, revêt des habits de deuil, donc costume. Ne te parfume pas, sois comme une femme qui porte depuis longtemps le deuil d'un mort. Tu iras ainsi vers le roi. Rappelez-vous, le roi, c'est le juge. À l'époque, il avait des fonctions de juge, des fonctions de justice dans le pays. Tu iras ainsi vers le roi et tu lui parleras de telle et telle manière. Joab l'instruisit de ce qu'elle devait dire. Donc, elle avait son texte à apprendre, elle avait son costume. Là, on est en plein théâtre. La femme Tekoïte alla parler au roi. Elle fait tout ce qu'il faut. Elle tomba face contre terre, prosternée, et dit « Oh roi, sauve-moi !» Le roi lui dit « Qu'as-tu ?» Elle répondit « Hélas, je suis veuve, mon mari est mort. J'avais deux fils. Ils se sont querellés tous les deux dans la campagne. » C'est important dans la campagne parce que la loi n'est pas la même quand on est isolé ou quand on est en ville. Parce que personne ne peut aider à la campagne. Il n'y avait personne pour les séparer. Voilà l'explication. L'un a frappé l'autre à mort. Alors tout le clan s'est dressé contre moi en disant « Livre celui qui a abattu son frère. Nous le mettrons à mort pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous le ferons disparaître, lui, l'héritier. Ils éteindraient ainsi le tison qui me reste. » C'est-à-dire tout ce qui me reste d'héritier, de famille. « Pour ne laisser à mon mari ni nom ni reste sur la terre. » C'est-à-dire le nom disparaît. Et puis, parce que c'était les hommes qui portaient le nom disparaît et aussi l'héritage, les terres. Je vais vous expliquer après pourquoi c'était important. Le roi dit à la femme, rentre chez toi, je donnerai des ordres à ton sujet. David s'arrête là. La femme Tekoïte dit au roi, sur moi la faute, au roi mon seigneur, et sur la maison de mon père, que tu en sois innocent, toi et ton trône. C'est-à-dire, écoute, je ne voudrais pas que ça te retombe dessus, je prends la responsabilité de ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire aller à l'encontre de la loi, qui voulait que le meurtrier, en cas de préméditation, soit banni du peuple ou tué. Hein. Enfin, le mot, c'est retranché du peuple, soit par la mort, soit par l'exil. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, il ne s'en prendra plus à toi. Bon. Alors elle dit, souviens-toi, je te prie au roi, du Seigneur ton Dieu, afin que le Rédempteur du sang n'augmente pas la ruine et qu'on ne fasse pas disparaître mon fils. Parce que le Rédempteur du sang, c'était quelqu'un qui était censé venger le sang innocent. Le sang innocent, hein. Et bien sûr, elle avait peur que quelqu'un dans la famille se lève et se considère comme le Rédempteur du sang et tue le fils meurtrier. Et elle a mis Dieu dans l'affaire, vous avez remarqué, je t'en prie, roi, du Seigneur ton Dieu, souviens-toi du Seigneur ton Dieu. Ça voulait dire quoi? Bah, prête serment au nom de Dieu. Et David comprend tout de suite ce qu'elle veut et il dit, par la vie du Seigneur. Il prend Dieu à témoin, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de ton fils. Ah, c'est là qu'elle voulait en venir. Vous allez voir comment il est maligne. La femme dit, laisse-moi te dire un mot, je t'en prie, au roi. Il est sympa, David, je trouve, hein. Et il dit, parle. Elle dit, pourquoi alors as-tu cette attitude? Tiens, 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 chut, toi là, en face de moi. Pourquoi as-tu cette attitude à l'égard du peuple de Dieu? Puisqu'il résulte de tes paroles même que tu as tort de ne pas faire revenir celui que tu as banni. Oh, elle est maligne quand même. Et là, ça vient de Joab, hein. Voyez comment elle a retourné les choses. Maintenant, c'est toi le coupable. C'est plus celui qui a violé, c'est plus celui qui a tué, mais c'est toi. C'est toi le coupable, parce que dans tes paroles même, tu viens de dire « il ne tombera pas à terre un seul cheveu de ton fils ». Donc, c'est clair, tu as tort de ne pas faire revenir celui que tu as banni. Donc, qui est le coupable maintenant? C'est David. « Mortels, nous mourrons. » Alors, là, joli discours. Hein. « Mortels, nous mourrons comme de l'eau répandue à terre qui ne se rassemble plus. » Sauf si on met les films à l'envers. Mais Dieu n'ôte pas la vie et il a conçu des plans pour que celui qui est banni loin de lui ne le reste pas. Alors là, on va voir qu'elle dit vrai et elle dit faux en même temps. Maintenant, au roi, si je suis venue te dire cela, c'est que le peuple m'a effrayée. Elle doit voir David qui commence à avaler de travers. C'est la faute du peuple, bien sûr. Le peuple m'a effrayée. Alors j'ai dit, je vais parler au roi. Peut-être le roi fera-t-il ce que moi, sa servante, je dirais. Alors, On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ce peuple m'a effrayé. Soit elle parle du peuple d'Israël qui grogne que Absalom soit banni, soit c'est dans son histoire à elle. Le roi m'écoutera et me délivrera de la main de l'homme qui veut me faire disparaître avec mon fils du patrimoine de Dieu. Donc elle revient à son histoire à elle. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle a bien culpabilisé David et ouf, elle revient à son histoire. Joab était vraiment un bon stratège, hein, même dans le discours. Parce qu'elle a dû apprendre tout ça par cœur. « J'ai dit que ta parole au roi soit source d'apaisement, je t'en prie, car tu es comme un messager de Dieu. » Allez, maintenant c'est la flatterie. « Pour ce qui est d'entendre le bon et le mauvais, que le Seigneur ton Dieu soit avec toi. » Et là, j'aime bien David. Le roi dit à la femme, « Je vais te demander quelque chose, ne me cache rien. » La femme dit, « Parle, je te prie, au roi, mon Seigneur. » Le roi dit alors, j'aime trop cette phrase, « N'y aurait-il pas du Joab dans tout ça ?» Je trouve ça excellent. La Bible est pleine d'humour. Il n'y aurait pas du Joab dans ce que tu me racontes là. Hein? Et la femme, bon, elle est honnête. Par ta vie au roi, on ne peut pas t'induire en erreur. Il aurait bien voulu. C'est en effet Joab, ton serviteur, qui m'a donné des ordres et qui a placé toutes ces paroles dans ma bouche. C'est pour changer le cours des événements que ton serviteur Joab a fait cela. Mais toi, mon Seigneur, tu es aussi sage qu'un messager de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. On ne sait pas ce qui se passe après, visiblement, elle s'en va, elle n'a pas été mise à mort, elle aurait pu, mais non. Et la conclusion, le roi dit à Joab, « Je veux bien faire cela. Va, ramène le jeune Absalom. » Joab tomba face contre terre, prosterné, il bénit le roi, il a eu ce qu'il voulait. Puis il dit, « Je sais aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, mon Seigneur, puisque tu agis selon ma parole. » David est-il appelé à agir selon la parole de son chef militaire? Je ne sais pas. Joab partit pour Geshur et ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit qu'il se retire chez lui, qu'il ne paraisse pas en ma présence. Alors Absalom se retira chez lui et ne parut pas en la présence du roi. Alors on va d'abord regarder un peu cette partie du texte, on passera à la suite après. Il semblerait que Joab ait passé son temps à guetter les réactions de David envers Absalom. Visiblement, Joab aimait bien Absalom. Visiblement. Et puis, il constate une amélioration, visiblement moins de chagrin pour la mort d'Amnon et moins de colère envers Absalom. Et il va faire quelque chose qui m'agace un peu, moi. Il va imiter Nathan. Vous vous souvenez comment a fait Nathan? Il va imiter Nathan en envoyant vers David une femme habile. Bon, moi, je traduirais par une excellente actrice. Et puis, il va penser que ça va marcher comme pour Nathan. Elle va raconter son histoire de façon très convaincante. Elle a le costume, elle a les larmes, elle a tout. J'imagine les couleurs du deuil, enfin, elle a tout ce qu'il faut. Et puis, elle va raconter son histoire. David va être convaincu qu'il a besoin d'aider. Et au début, il ne fait pas le rapprochement. Au début, il est dans sa position de roi-juge. Il accueille, et je trouve très patient, hein, parce qu'elle en remet une couche à chaque fois, et à chaque fois, elle parle, il écoute. C'est bien. On reconnaît bien David, là, hein, ce cœur ouvert. Donc c'est le juge, face à la femme veuve, qui demande de l'aide et une intervention. On va retrouver ça dans le Nouveau Testament, avec le juge unique, vous vous souvenez, etc. C'était un truc classique, les veuves, elles n'avaient personne pour les défendre. Elle n'avait en général pas d'argent, puisque l'héritage, souvent, elle ne l'avait pas. Donc, elles avaient besoin d'être protégées par la justice du pays. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un de ses fils a été tué par son frère. Apparemment, David ne voit pas le rapprochement sur le coup. Et puis, la famille réclame que le meurtrier soit mis à mort. Selon la loi, c'était ce qu'il fallait faire. Tuer son frère avec préméditation, ça ne passait pas. De ce fait, le problème, c'est qu'elle se retrouverait seule, sans soutien, puisque dans ces cas-là, c'était les enfants qui prenaient soin des parents. Aujourd'hui, on met les parents dans des maisons de retraite. Et donc, voilà, on est dans une autre civilisation où on prenait soin des parents, et une femme veuve, bah, c'était les enfants qui devaient s'en occuper. Et donc, si le premier est déjà mort et que le deuxième, la famille veut le tuer, il n'y avait pas de maison de retraite, et qu'est-ce qu'elle allait devenir? Et il y avait un autre problème, beaucoup plus grave aux yeux de la loi. C'est que quand Josué a partagé le territoire de Canaan aux différentes tribus, vous vous souvenez de cette période, chaque famille avait un territoire, plus ou moins grand, enfin, on rentre pas là-dedans. En gros, ils avaient chacun leur territoire et qui portaient leur nom, c'est-à-dire, bon, la famille, je sais pas, machin chose, avait tel territoire, l'autre. Et puis, ils se transmettaient ce territoire de père en fils. Et s'il n'y avait plus de fils, c'était une tragédie. C'est aussi pour ça que la stérilité était un énorme problème. Parce que plus de fils, plus de territoire. Le territoire revenait à d'autres membres de la famille pour garder le nom. Mais si le nom ne pouvait pas rester, c'était très triste, c'était très important, parce que c'était une famille d'Israël qui disparaissait. Un territoire qui disparaissait, un nom qui disparaissait. C'était grave en Israël. Le nom était perdu et l'héritage était dispersé parmi les membres du clan. Alors évidemment, nous, on est loin de tout ça. Que notre terrain change de nom, même, voilà, so what, hein, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais à cette époque, c'était important parce que ça rappelait le don de Dieu qui a donné, livré Canaan aux Israélites après la sortie d'Égypte, 40 ans après. Alors Jésus va faire allusion à ce problème, ce qui prouve que c'était quand même un problème profond. Il va faire allusion à ce problème en Matthieu 21, si vous regardez, verset 38, la parabole des mauvais vignerons qui disent « C'est l'héritier, tuons-le et nous aurons son héritage ». Donc en fait, il y avait un intérêt aussi pour la famille. Elle voulait venger, évidemment, le pauvre qui a été assassiné. Mais en même temps, elle savait qu'en vengeant celui qui a été assassiné, en tuant le meurtrier, il récupérait l'héritage. Donc là, vous voyez, on comprend aussi qu'il y avait une pression. Problème difficile, parce que d'un côté, si on laisse le meurtrier en liberté, c'est pas ce que veut la loi. Si on le tue, l'héritage est perdu, c'est pas ce que veut la loi non plus. Donc, Joab avait trouvé la faille. Ah là là. Alors, David répond en roi responsable de la justice. Je vais donner des ordres à ton sujet. Bon, première étape, je vais m'arranger pour que tu sois pas toute seule. Je vais m'arranger pour que tu sois pas dans le dénuement. Je vais donner des ordres. Il dit pas quoi, hein. Je pense qu'il se laisse le temps de réfléchir. Alors la femme accepte la responsabilité, mais elle ne veut pas que le roi, apparemment, ou l'institution royale soit accusée de ne pas respecter la loi. Donc elle va avoir une deuxième tactique, qui est de dire, bon, j'en assume la responsabilité, je veux pas que ce soit toi. C'est gentil, mais David, c'est pas le genre à ne pas assumer, il assume. Si on s'en prend à toi, qu'ils viennent me voir. Parce que, mais c'est sûr, les gens pouvaient venir dire quoi ? Le roi a autorisé qu'on ne tue pas le meurtrier. Non, mais c'est quoi ça ? Et la loi, on en fait quoi ? La loi de Moïse. Bon, bah alors écoute, c'est pas grave. Envoie-les-moi, je m'en occupe. Il assume. Elle a gagné ça. Et puis, elle arrive à cette formule de serment. Au nom du Seigneur. Et là, c'est du grand art. C'est du grand art. Elle va arriver à lui faire dire, au nom du Seigneur, que on ne va pas toucher un cheveu du meurtrier. C'est-à-dire le rédempteur du sang, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, le parent proche qui avait le droit et le devoir de mettre à mort le meurtrier, n'a plus le droit de faire son travail. Et donc, David est tout à fait en faux, s'inscrit en faux par rapport à la loi. Et là, c'est moche. Parce qu'il l'a juré, entre guillemets, il a fait un serment au nom du Seigneur. Et là, je trouve qu'elle est extrêmement maligne. David dit, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de ton fils. Parce que lui, il est dans la grâce. Comme l'a très bien expliqué Philippe la dernière fois, il a le cœur de Dieu. Il est dans la grâce. Il ne veut pas que cette femme se retrouve sans soutien. Il ne veut pas que voilà, ce soit la loi du talion, etc. Il comprend l'importance de l'héritage, du soutien à la veuve et à l'orphelin, qui est une priorité dans la loi juive aussi. Donc là, il y a un entrechoquement entre les différentes lois. J'espère que c'est clair. Alors, c'est compliqué pour David. Et il n'hésite pas à s'engager au nom du Seigneur. On ne touchera pas un cheveu de ton fils, vu les circonstances. Parce qu'il a le cœur de Dieu, il a un cœur de grâce. Mais la femme va passer de la fiction à la réalité, là. Maintenant qu'il s'est engagé devant Dieu, pour une certaine famille, devant le peuple de Dieu, pourquoi ne pas faire revenir celui que toi tu as banni ? Elle est maline là. Hein ? Là, c'est du grand art. Maintenant que tu t'es engagé devant Dieu à toucher pas un seul cheveu du meurtrier de mon premier fils, bon, eh bien alors pourquoi maintenant tu es coupable de ne pas mettre en pratique ce que tu dis ? Puisque toi, tu rappelles pas Absalom qui est banni, là, retranché du peuple, hein, par le bannissement, soit la mort, soit le bannissement. Ah, elle a réussi là. Elle a réussi. Et c'est là que David réalise, qu'il s'est fait avoir. Ah là là. Alors, on va regarder juste les points communs entre les deux histoires, l'histoire de la femme et l'histoire de David. Il s'agit d'une punition pour meurtre selon la loi des homicides, Exode 21:12. Mais cette loi est contredite quelque part, dans ce cas présent, par la préservation de la lignée et de l'héritage, le maintien du nom et du domaine familial. Donc là, David, il est bien embêté, hein. Il se trouve face à deux lois contradictoires. D'un côté, David doit condamner à mort le meurtrier, mais de l'autre côté, l'Absalom en question, c'était l'héritier de la couronne, de la lignée. C'est pas évident, hein ? Dieu avait promis qu'il aurait toujours un successeur. Toujours un successeur sur le trône de David. Mais c'est horrible pour David. Comment résoudre ce problème ? Il est même possible que certains membres de la famille royale insistent pour appliquer cette loi-là à David, à Absalom. Parce que, surtout, je pense ceux qui ont été témoins du meurtre, ça ne devait pas être drôle. Hein. Vous imaginez, vous avez une grande réunion de famille, et puis, pan, il y a des hommes qui viennent tuer un des deux fils. Les autres sont échappés, hein, rappelez-vous, ventre à terre, sur leur mulet. Mais quand même, ils ont assisté à la scène. Et il y en a peut-être qui ont dit, bon là, ça suffit, hein. Il faut punir le meurtrier, il y en a d'autres qui vont faire pareil. Si dans la famille royale, c'est déjà comme ça, si on ne respecte plus la loi, où va-t-on ? Alors, vous voyez, c'était très compliqué. Et puis, alors, elle continue, que ta parole soit une source d'apaisement, tu es un messager de Dieu, pour juger avec impartialité, etc. Bon, elle le flatte, c'était de bonne guerre, Joab avait bien fait son travail. Mais David va deviner d'où vient le discours. Il se dit, ah là là, il y a du Joab là-dessous. Ouf, enfin, il a le discernement. Et il va accepter que Joab ramène son fils. Alors, je voudrais juste faire une petite comparaison avec ce qui s'est passé avec Nathan. Parce que vous allez me dire, mais finalement, Joab, c'était pas mal ce qu'il avait fait. Ça se comprend. C'est ce que Dieu avait fait avec le prophète Nathan. Alors, on va juste faire une petite comparaison, parce que ça m'intéressait, parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, mais après tout, c'est vrai que j'aime pas trop Joab, ça se sent. Mais... bon, c'est quand même un bon chef militaire, il a quand même défendu Israël très vaillamment pendant des années. Nathan, vous remarquerez qu'il était inspiré de Dieu. Je reprends le texte, l'Éternel envoya Nathan vers David. Là, c'est Joab qui s'aperçoit que le cœur du roi est en train de changer envers Absalom, et il agit personnellement en fonction de ce qu'il voit chez David. Donc, on n'est pas dans l'Éternel envoyé à Joab. Hein. Donc là, il y a une grosse différence. Deuxième chose, Nathan raconte une parabole, exactement ce que fera Jésus. Il était une fois un homme qui... Jésus a repris cette méthode. Joab, lui, va choisir une actrice. Une femme qui est douée, habile, rusée. Et il va lui donner son texte à lire. Là, je suis désolée, mais où est la parole de Dieu ? C'est la parole de Joab qui est dans la bouche de cette excellente actrice. Donc, bien sûr, ça ressemble à ce qu'a fait Nathan. Mais c'est un petit peu comme le Canada Dry. Hein. Ça ressemble, mais ce n'est pas alcoolisé. David, il répond en juge, il va répondre spontanément à Nathan. Comment il répond ? Quand il entend à la parabole, cet homme mérite la peine de mort. Et puis, il faut qu'il rentre 4 fois. Il sort la loi. Là, David se fait complètement manipuler en 3 étapes. On les a vues, les étapes, hein, jusqu'au serment. Et à la fin, il reconnaît la main de Joab. Pas celle de Dieu. Tandis qu'avec Nathan, il a reconnu que Dieu avait parlé. « J'ai péché contre l'Éternel. » Là. Ensuite, David, qui dit « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répond « L'Éternel te pardonne, tu ne mourras pas. » C'est l'Éternel qui décide, parce qu'il s'est repenti. Et puis par contre, dans l'histoire de Joab, le roi dit à Joab simplement « Je veux bien faire cela. » Ben, Dieu n'a pas sa place là. Voyez la différence. Ça ressemble, l'action de Joab ressemble fortement, fortement à celle de Nathan. C'est curieux d'ailleurs, c'est à quelques chapitres d'écart, on l'a encore bien présent à l'esprit. Ça ressemble. Mais Nathan était envoyé de Dieu et il a pris de vrais risques, Nathan. Il y a des prophètes qui se sont fait tuer pour ce genre de choses. Ils ont été tués parce que les rois étaient en colère. Nathan était envoyé de Dieu, il a pris des vrais risques. Joab, lui, il agit complètement humainement, avec une stratégie perso, vraiment personnelle, et il fait prendre les risques à l'actrice, hein, parce que si David s'était fâché, il pouvait la faire tuer. En plus, ça ne résout rien, il n'évoque pas la loi, et surtout, surtout, pas de repentance, pas de pardon, le mot n'est pas prononcé, rien. Ça donne une image de Dieu, la femme, j'ai regardé un peu son texte hein, que Joab lui a mis dans la bouche, donc ça donne une image de Dieu extrêmement humaine, qui aboutit d'ailleurs à faire croire à David que c'est lui le coupable, ce qui n'est pas entièrement faux puisqu'il agit par faiblesse. Mais ça donne une image très humaine de la situation. Le coupable, il faut le rappeler, tu as eu tort de le proscrire, quoi, tu as eu tort de prolonger. David, la loi disait, il sera retranché du peuple. C'est pas rien, un fratricide, quand même. Alors elle dit sagement, cette femme, Dieu n'ôte pas la vie. Il veut que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. Ah oui. Mais il n'y aurait pas des conditions par hasard? Ça. Elle fait abstraction. Joab fait abstraction de toutes les conditions. Dieu veut que le fugitif ne reste pas banni. Et ça, c'est un argument qui marche avec David, parce qu'il a un cœur de grâce. Mais nous, on peut aller vers le fils prodigue. Lui, évidemment, il ne pouvait pas. La parabole n'avait pas encore été donnée. Mais le fils prodigue, il n'est pas venu comme ça, les mains dans les poches. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et là, évidemment, le Père a fait grâce. Mais là, ça n'apparaît pas hein, dans l'histoire de Joab. Ils ont une image de Dieu qui est la leur, pas celle qui est transmise ni dans la loi, ni par les prophètes, etc. Dieu n'ôte pas la vie, il veut que le fugitif ne reste pas banni de sa présence. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai qu'il ne veut pas que le pécheur meure, il ne veut pas que le fugitif reste banni. C'est vrai. Mais il y a une petite condition, hein. Et ça, personne n'en parle. Et je trouve, alors honnêtement, je trouve que cette femme, Joab, puisque c'est lui qui a mis les paroles dans sa bouche, donne une image de Dieu extrêmement moderne. Moi, je trouve que ce texte, mais il est fantastique pour le 21e siècle. On en est arrivé là. C'est-à-dire, c'est un Dieu très, très moderne, très humaniste, qui ferait merveille chez les francs-maçons. C'est vraiment... ce Dieu qui accueille, qui bénit, qui reçoit, qui donne, qui pardonne tout sans qu'on demande rien. Et il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai, mais tout n'est pas juste. En plus, elle n'hésite pas à culpabiliser David. Lui, par contre, il a le droit à la culpabilité. Tu vois, tu laisses ton fils banni. C'est vrai qu'il a usé de faiblesse, mais bon. La Bible dit « À moi la vengeance ». À moi la restitution. Hein. Elle culpabilise David, la rétribution, pardon. Elle culpabilise David qui ne pardonne pas le meurtre d'Amnon. Mais la Bible dit pourtant que le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas faire abstraction de tous les versets bibliques. Et Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Oui, c'est vrai que Dieu veut la vie, elle le dit. Mais il est aussi le chemin et la vérité. Dieu n'ôte pas la vie, elle dit. Bah, bien sûr, Dieu n'est pas là pour ôter la vie. Elle a raison et elle a tort. Parce que Dieu veut. Aujourd'hui, on dit la même chose. Dieu veut notre bonheur. Je me souviens de ce grand évangéliste, John Beverley n'avait pas donné le nom, qui lui téléphone un jour, il devait aller faire une série de conférences, pour ceux qui connaissent John Beverley, il devait faire une série de conférences dans l'église de ce monsieur, qui est une église énorme, et il téléphone en disant qu'il va divorcer, etc. Et John Beverley, qui quand même respectueux de la parole de Dieu, dit, mais non, écoute, là, t'as aucune bonne raison, il essaie de raccrocher et de le faire réconcilier avec sa femme, ce qui est normal. Rien à faire, du coup, l'autre le met à l'index et lui interdit de venir prêcher chez lui. Bon, c'est son problème, hein. John Beverley n'allait pas changer son discours, hein, pour ça. Et par la grâce de Dieu, il avait dit à John Beverley, Dieu veut que je sois heureux. Je ne suis plus heureux, donc c'est fini. C'est vrai, Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut notre bonheur. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que Dieu veut. Et grâce à Dieu, cet homme, après avoir discuté avec John Beverley, a été repris dans sa conscience. Et il a demandé pardon à Dieu. Ils se sont réconcilié avec sa femme et John a pu aller prêcher un an plus tard chez lui. Mais l'histoire est un peu longue, je vous la résume. Mais l'idée, c'est ça. On peut prendre une partie de la parole de Dieu. Et c'est le cas là. Il désire que le fugitif ne reste pas banni. Bah oui, Dieu veut la vie, il veut notre bonheur, mais c'est pas tout. Il y a des conditions à ce bonheur. On attribue des paroles à Dieu sans tenir compte là de celles qu'il avait déjà données à Moïse. Et pourquoi est-ce que Moïse demandait qu'on retranche du peuple le meurtrier ? Il fallait quand même une justice, une sécurité dans le pays. Si les meurtriers pouvaient galoper en liberté, est-ce que c'était la sagesse pour le pays ? Est-ce qu'ils n'allaient pas récidiver un jour où ils seront en colère contre quelqu'un, etc. ? Il y a une protection aussi dans la justice. On ne peut pas voir la justice que comme quelque chose de dur, de méchant, d'agressif. C'est aussi protecteur. Et la Bible conçoit la justice comme une protection. Pas comme une vengeance. Mais bon, il faut lire l'ensemble de la Bible. Et ça me fait penser, parce qu'aujourd'hui, on est dans cette dynamique. Hein. Dieu veut le bonheur, Dieu veut vous bénir, Dieu veut, etc. Et ça me fait penser à ce que j'écoutais à la BBC pendant un temps. Il y avait une émission remarquable qui s'appelait House of Tiny Tearaways. C'était des psychologues qui donnaient des conseils à des jeunes parents qui ne s'en sortaient pas avec leur petit mouflet entre 0 et 3 ans. Ils s'en sortaient pas du tout, ils étaient complètement menés par le bout du nez, ils s'en sortaient pas, malgré toute leur bonne volonté et leur amour pour leurs enfants. Et je me souviens, c'était un grand truc dans cette émission, c'était le time out, c'est-à-dire un petit peu ce que nous on appellerait mettre au coin, mettre l'enfant dans un endroit isolé, et puis c'était calculé le nombre de minutes en fonction de l'âge et de la gravité de la situation. C'était pas la punition bête et méchante qui n'a aucun sens. C'était vraiment quelque chose d'expliquer à l'enfant. Tu es grand, tu peux comprendre. Donc maintenant, ce sera 6 minutes, parce que voilà, et puis tu es plus grand, ça sera 10 minutes. Ce temps où il était mis au coin, tout seul, dans un endroit pas drôle, pas un placard quand même, mais bon. Et donc on adaptait la punition à l'âge. Et on demandait des excuses. Et je me suis dit, bizarre, ça c'est des gens qui ne sont pas du tout chrétiens, qui vivent au même siècle que nous. Seulement, avec des enfants, on y pense. Parce qu'on pense à leur avenir, on pense, tu vois. Et puis, à côté de ça, on voudrait prêcher un Dieu qui passe sur tout, qui est tout amour. Il veut la vie, il veut le bonheur. Et c'est vrai, il y a une simple condition, c'est demander pardon. Rappelez-vous, le fils prodigue, la première chose qu'il dit, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Et là, il a un accueil, un pardon total, malgré le fait qu'il a dépensé tout son héritage. Ils vont lui reconstituer, visiblement. Dieu remet les pendules à zéro. Dieu est bon. Je l'ai dit la dernière fois, tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro. C'est vrai avec Dieu, c'est vrai. Mais il y a cette petite chose qui est indispensable. Alors, pour ce qui est de David, on va revenir à notre pauvre David. Il avait un problème, c'était son indécision, punir Absalom, lui pardonner, le rappeler. Le fait qu'il faisait rien, ça inquiétait le peuple, c'est sûr. Du coup, il y avait une pression au niveau du peuple. Mais qu'est-ce qui fait le roi? Alors, il y avait les pour tuer Absalom, puis les ramener Absalom. Hein, il y avait deux groupes. Et certainement que ça devait être un peu la bagarre dans le peuple. Moi, je suis pour ramener Absalom, j'aime bien Absalom, etc. Puis les autres, bah, je suis pour le tuer. Il faut, voilà. Ou le laisser en banni, exilé. Il y avait une peur de l'anarchie à cette époque. Une peur de l'anarchie, comme au temps des juges, vous vous souvenez, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et il commençait à avoir peur de ça. Si la loi n'était pas appliquée, on n'avait plus rien. Ce n'était pas sécurisant. Hein. C'est ce qu'ils expliquaient dans l'émission anglaise que je vous cite. Ils disent que ça insécurise les enfants de savoir qu'ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe quand, à n'importe quel moment, sans aucune conséquence. Ils expliquaient ça aux parents, qui étaient pleins de bonne volonté. Et je crois que là, on est dans cette situation. Il y avait une peur de l'anarchie dans le peuple. Et puis, il y avait un problème de succession. Si Absalom est écarté définitivement, qui va être le prochain roi? Peut-être que Salomon était encore un peu jeune, je ne sais pas. Probablement. Donc, c'était un souci au niveau du peuple. Donc, ce n'était pas facile pour David. Alors, on va juste rapidement lire la suite et on va arrêter là. Il n'y avait pas dans tout Israël d'homme aussi beau. Alors on passe carrément là, hein, d'un truc à l'autre. Absalom se retira chez lui et ne parut pas en la présence du roi. Et puis d'un seul coup, le texte suivant. Il n'y avait pas dans tout Israël d'homme aussi beau, ni aussi comblé d'éloges qu'Absalom. Depuis les pieds jusqu'au crâne, et puis on y va, hein, c'est détaillé. Et il n'y avait en lui aucun défaut. Waouh, il a de la chance, hein, on voudrait tous être comme lui. Lorsqu'il se rasait la tête, et puis... petit tiret, il se la rasait chaque année parce que sa chevelure lui pesait. Il devait avoir des cheveux magnifiques qui devaient faire pâlir toutes les dames. Le poids de ses cheveux était de 200 sicles. Alors tout le monde discute, mais bon, c'était un petit peu plus que la normale. On ne va pas rentrer là-dedans. Vu que les sicles étaient plus ou moins dépendaient du roi, etc., bon, c'est compliqué. Mais en gros, ce qu'on peut comprendre, c'est que c'était certainement plus lourd que la normale. Donc il avait une chevelure extraordinaire et il était obligé de se la raser tous les ans. Il naquit Absalom trois fils et une fille nommée Tamar, je pense en souvenir de sa sœur, qui devint une belle femme. Donc voilà, sur quoi on insiste là? L'extérieur, la beauté, la beauté. La beauté, les éloges, depuis les pieds jusqu'au crâne, il n'y avait aucun défaut. Vous voyez, l'attention est portée sur l'apparence. Il va rester 2 ans à Jérusalem sans paraître en la présence du roi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fit demander Joab pour l'envoyer auprès du roi. Mais Joab ne voulut pas venir le voir. Tiens, Joab est un peu gêné aux entournures là. Hein. Il le fit encore demander une deuxième fois. Mais Joab ne voulut toujours pas venir. Oh, il se sent gêné, Joab. Je me demande si son histoire de théâtre là, ça ne doit pas le mettre un peu mal à l'aise. On ne sait pas. Absalom dit à ses hommes, regardez la parcelle de Joab qui est à côté de la mienne. Il y a là de l'orge. Allez y mettre le feu. Les hommes d'Absalom mirent le feu au champ. Comme ils avaient tué Amnon, enfin ils obéissent. Joab vint trouver Absalom chez lui. Il lui dit, mais pourquoi tes hommes ont-ils mis le feu à la parcelle qui m'appartient? Absalom répondit, je t'avais fait dire, viens ici. Et je t'enverrai dire au roi de ma part, pourquoi suis-je revenu de Guéchour? Mieux vaudrait pour moi que j'y sois encore. Maintenant je désire paraître à la présence du roi. Et s'il y a une faute en moi, eh bien qu'il me fasse mettre à mort. Non, il est conscient de la loi lui. Joab se rendit chez le roi et lui dit tout cela, puis il appela Absalom, qui se rendit chez le roi et se prosterna devant lui, face contre terre. Le roi embrassa Absalom. Alors, on va pouvoir réfléchir la prochaine fois là-dessus. Où est la repentance? La grâce, David la donne, sans repentance. Et puis, vous voyez comment il fonctionne, Absalom, dans sa grande beauté, son apparence extraordinaire. Je veux... Et ce que je veux, c'est tout de suite et maintenant. Un drôle de caractère. Il va attaquer la source de nourriture de Joab, parce que c'est ça un champ, hein, à l'époque, c'était, il stockait. Il va attaquer directement Joab. Et son caractère. C'est marrant parce que la Bible, elle dit sans dire, hein. Vous avez remarqué? Elle insiste longuement sur sa beauté, elle ne parle absolument pas des qualités ou des défauts. Et puis après, elle dit, voilà comment il fonctionnait, votre gars. Voilà son fonctionnement. La dureté, la vengeance, la rétribution, dent pour dent, œil pour œil. Tu ne me fais pas envoyer chez le roi? Ok, je te brûle ton champ. Ça, c'était le cœur. Mais on en reparlera la prochaine fois. Donc là, David, il est mal barré, comment dire. Pris entre des lois contradictoires, il cède parce qu'il a fait un serment, il a été un petit peu manipulé. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment ça va se passer? Ben, ça ne va pas bien se passer. Ça n'empêchera pas les promesses de Dieu de toujours se réaliser. Et le successeur, ce ne sera pas Absalom, ce sera Salomon, parce que Dieu l'avait décidé. Donc Dieu fait ce qu'il veut, et c'est ce qui nous console. Quoi qu'il arrive, Dieu fait ce qu'il veut. Et merci Seigneur pour ça. Par contre, parfois le trajet est un peu plus difficile, parce que c'est nous qui compliquons les choses. L'homme complique les choses, mais Dieu fait ce qu'il veut. Seigneur, merci, parce que devant toutes ces perturbations, devant toutes ces manipulations, devant tous ces problèmes auxquels David était confronté, tu as quand même réalisé ta volonté. Et tu vas envoyer Jésus, fils de David. Merci Seigneur, parce que toi, tu sais régler les problèmes, même quand nous, on est perdus devant des problèmes contradictoires comme était David. On ne sait pas prendre de décision parce que dans les deux cas, ça ne va pas. Seigneur, tu viens à notre aide. Et nous te demandons ta grâce. Et s'il y a des gens aujourd'hui qui sont devant des choix de ce genre, où bah c'est contradictoire, s'ils font A, ça va poser un problème, s'ils font B, ça posera un autre problème. Seigneur, que vraiment tu leur viennes en aide par ta sagesse, parce qu'on est parfois confronté à ce genre de situation. Si c'est le cas, Seigneur, envoie-leur ton esprit de sagesse, qu'ils s'attendent à toi, qu'ils crient à toi, et que nous crions tous à toi pour la sagesse devant les problèmes difficiles qui nous sont présentés, souvent par l'ennemi d'ailleurs. Seigneur, fais grâce à ton Église, fais grâce à chacun de nous et qu'on puisse vraiment faire ta volonté, même quand ça nous semble impossible. Tu as un chemin, tu as un chemin, comme le dit le chant, il y a un chemin. Dieu fera un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin. Amen.